Radio Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, Ebola, avec ses nouveaux chiffres cumulés de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. 63 décès sur environ 380 cas pour les trois provinces touchées, soit un taux de décès de 17%. Des progrès que le ministre de la Santé lie à une meilleure maîtrise de la riposte. Alors que des combats se sont intensifiés dans certains coins de deux Kivu entre rébellions et armées, ils sont plus de 200 éléments à avoir déserté les rangs de la FCM-23 pour se rendre volontairement au FARDC allié ces deux derniers mois. La 34e région militaire qui l'annonce appelle les autres jeunes présents dans la rébellion à faire pareil. Comme invité, Souviens Kissimba, directeur provincial du GUICEP, le guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Il explique le rôle et l'importance de ce service de l'État créé depuis bientôt 4 ans. Santé, nous commençons avec ces chiffres en rapport avec la maladie d'Ebola. On compte au total 63 personnes décédées sur 381 cas confirmés d'Ebola depuis la déclaration officielle de l'épidémie il y a 20 jours, soit une létalité de 17% dans les provinces touchées. Le ministre de la Santé publique a dévoilé ses tout nouveaux chiffres lors du briefing de presse tenu hier jeudi ici à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya. Roger Kamba explique la baisse des chiffres par la maîtrise de la riposte avec l'installation des laboratoires et l'acquisition des kits de soins leur permettant d'avoir le nombre exact des malades. Les propos du ministre Roger Kamba, recueillis par Blesh Ndani Kambala.
Nous avons toujours trois provinces qui sont touchées, qui sont l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il n'y a pas de cas d'Ebola ailleurs. De ces trois provinces, la province d'Ituri reste celle la plus touchée, avec quasiment 94 à 95% des cas. On a un cas dans le Nord Kivu, et à peu près 3 cas dans le sud Kivu. Au total, nous sommes à 381 cas cumulés. Sur les 381 cas, nous avons 63 personnes qui sont décédées. On se rend compte que nous sommes à moins de 17% de létalité. Actuellement, dans nos centres de santé, on est autour de 233 patients qui sont hospitalisés, soit pour être isolés en attendant les tests parce qu'ils sont très suspects, soit parce qu'ils sont réellement malades. En termes de nombre de zones de santé touchées, nous sommes à 25 zones de santé au total. 17 en Ituri, 7 dans le Nord Kivu et une zone de santé dans le Sud Kivu.
Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias encourage la population à continuer de respecter les mesures barrières édictées par le comité de riposte. En ce qui concerne la lutte contre Ebola, le chef de la MONUSCO réaffirme le soutien des Nations Unies aux autorités congolaises. James Swan l'a déclaré hier jeudi à Bunia à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri. Les deux personnalités ont notamment échangé sur les besoins des populations affectées et les défis liés à la riposte dans les zones touchées. Nous faisons le point avec Isaac Raymond.
Le chef de la MONUSCO indique être venu à Bunia pour exprimer avant tout la solidarité des Nations Unies avec les populations de l'Ituri affectées par l'épidémie d'Ebola. Au cours de son entretien avec les gouverneurs des provinces, les échanges ont porté notamment sur les besoins des communautés touchées et les moyens de renforcer l'assistance aux populations affectées. Le chef de la MONUSCO a rappelé que la mission onusienne demeure pleinement engagée aux côtés du gouvernement dans les efforts de riposte contre Ebola. James Swan.
La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte.
Pour le gouverneur de l'Ituri, l'appui de la MONUSCO est déterminant dans plusieurs domaines de la riposte. Il a notamment cité les transports et les déploiements du matériel médical, même dans les zones parfois difficiles d'accès à raison de l'insécurité, notamment à Mungwalu, l'un des principaux foyers de l'épidémie, le général Johnny Luboya Kashama.
Nous travaillons avec la MONUSCO dans toutes les dimensions. Il y a des tonnes de médicaments qui sont arrivés ici. Ils vont même vers Mungwalu. Il y a aussi le personnel qu'on nous aide à amener à Mungwalu.
James Swan a regagné Kinshasa en fin d'après-midi. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Notez par ailleurs qu'en Ituri, le tribunal des grandes instances suspend les audiences foraines à la prison centrale de Bunia. Et pour cause, vous vous en doutez, toujours la maladie à virus Ebola. Dans un communiqué datant de mercredi dernier, le président de cette instance judiciaire justifie cette mesure par des raisons d'urgence sanitaire avec des cas suspects d'Ebola enregistrés dans cette maison pénitentiaire. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Des audiences foraines se déroulent régulièrement à la prison centrale de Bounia dans le cadre du rapprochement de la justice des justiciables. Selon le président du tribunal de grande instance de l'Ituri à Bounia, à cause de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe actuellement la ville et ses environs, il est impérieux de suspendre jusqu'à nouvel ordre les audiences foraines dans cette maison pénitentiaire afin de limiter le risque des contaminations et des propagations de cette maladie hémorragique. Romain Moulin Nga Kassongo ajoute que les audiences vont reprendre dans ces lieux carcérales après l'amélioration de la situation sanitaire dans la ville et au sein de cette prison. Signalons que depuis l'annonce de l'épidémie d'Ebola, plusieurs actions de riposte ont déjà été entreprises à la prison centrale de Bounia. Ainsi, des équipements de protection individuelle, du chlore, des dispositifs de lavage de mains et des thermomètres infrarouges ont été fournis à la prison. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Sécurité. Plus de 200 combattants de la FC-123 se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés dans le Nord Kivu, situé au mois d'avril et mai dernier. Et ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successives, explique un communiqué publié hier jeudi par le porte-parole de la 34e région militaire. Le major Dieudonné Kasirika précise que les ex-combattants se sont rendus notamment dans les zones opérationnelles de Lubero, Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, ainsi que dans celles de Calais au Sud Kivu. Dieudonné Kasirika, dont ses propos recueillis par Bernard Denyangui.
Au total, ils sont 204 éléments ex-combattants M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo le deux derniers mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour les accueillir. Comme vous le savez, ces jeunes innocents ont été recrutés par force pour être embarqués dans cette rébellion. Et c'est pourquoi nous continuons à demander à tous les autres qui sont en train de souffrir dans cette rébellion, de déposer les armes et venir se rendre comme les autres l'ont fait.
Pour rappel, cette reddition intervient dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements entre l'FC-123 et l'armée congolaise appuyée par des combattants Wazalendo. Ces combats se sont intensifiés ces derniers mois dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru, Nord Kivu ainsi qu'à Kalehe dans le Sud Kivu. Nous ne quittons pas le Nord Kivu. Deux hauts commandants des groupes armés ciblés par des sanctions américaines. Dans un communiqué publié dernièrement, l'administration Trump cite notamment Gustave Kubwayo et John Imani Nzenze, affiliés respectivement au FDLR et à l'AFC-123, actifs dans la région de Kivu. Les deux hommes sont accusés de graves violations de droits humains, notamment des attaques contre des civils dans l'est du pays. Des détails à ce sujet avec vous, Lievin Bouinga.
Dans son communiqué, le département d'État américain indique que ces sanctions visent à contrer les menaces pesant sur la stabilité et la prospérité de la région. Gustave Kubwayo, commandant d'une unité de renseignement et d'opérations spéciales des FDLR, est mis en cause pour son implication dans plusieurs faits attribués à son mouvement rebelle, notamment des violences ethniques contre les civils, l'utilisation d'enfants soldats, des violences sexuelles ainsi que des attaques transfrontalières menaçant la sécurité du Rwanda. De son côté, John Imani Nzenze est présenté comme le chef du renseignement du M23, également accusé de meurtre, de graves violations des droits humains et d'attaques contre des civils. L'administration américaine affirme vouloir, à travers ces sanctions, contraindre toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter leur engagement, notamment ceux pris dans le cadre des accords de Washington pour la paix et la prospérité ainsi que du processus de Doha. Elle indique également qu'elle entend continuer à utiliser tous les moyens à sa disposition pour promouvoir une stabilité durable dans la région.
Des femmes déterminées à jouer un rôle important dans le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces femmes parlementaires, leaders de la société civile ainsi que partenaires nationaux et internationaux réfléchissent depuis hier à Kinshasa sur le renforcement du rôle politique des femmes dans le processus de paix. L'objectif est d'identifier des stratégies innovantes et concrètes pour accroître leur influence dans les négociations de paix, la prévention des violences sexuelles liées au conflit et le suivi des accords de paix. Le point avec Nancy Tambo.
Cet atelier réunit plusieurs actrices engagées dans la promotion de la paix pour réfléchir aux moyens de renforcer la leadership féminin dans les espaces de décision. La députée nationale Dominique Munongo explique les innovations politiques pouvant favoriser la participation de femmes aux négociations de paix.
C'est important qu'il y ait en place une synergie des femmes de la société civile, nous les femmes parlementaires, que nous puissions ensemble d'abord nous approprier de tout ce qui se passe, les informations qui sont réellement vérifiables.
Et Emmanuel Zondi du Fonaref revient sur le mécanisme de protection des survivantes des violences liées au conflit.
Pour les questions de paix, le Fonaref peut être cette passerelle de plaidoyer, une institution gouvernementale qui œuvre justement pour les questions de justice transitionnelle.
Catherine Wittig de la MONUSCO présente des expériences internationales inspirantes pour une participation plus active de femmes au processus de paix en RDC.
Nous, même notre appui, ça c'est la MONUSCO, mais c'est surtout les échanges des députés et de la société civile qui vont compter ce cadre exactement qu'on a essayé de mettre en place.
Les travaux se poursuivent ce vendredi avec l'élaboration des recommandations visant à renforcer l'influence des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité en RDC.
Parlons justice à présent. Affaire enfant Likulia Mouchobekwa, Noah Tabaza contre Philemon Mambabwa. Le verdict est tombé hier jeudi à la cour militaire de Kinshasa Gombe Andolo. Le haut cadre de l'Agence nationale des renseignements et propriétaire de la résidence où les enfants ont été torturés est acquitté. Les deux policiers accusés d'avoir agressé ces enfants sont eux condamnés à 2 ans de servitude pénale. La députée nationale honoraire et ancienne ministre des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, ne compte pas interjeter appel. Autre actualité, deuxième et dernier jour de l'examen national de fin d'études primaires ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Nord Kivu, 90 856 élèves finalistes du primaire, dont plus de la moitié, soit 48 200 filles, participent à ces épreuves. La conseillère du gouverneur en charge de l'éducation a procédé au lancement officiel de ces épreuves à l'école primaire Mapendano dans la ville de Beni. À cette occasion, elle a salué l'appui des partenaires du gouvernement, notamment dans l'acheminement des malcontents. Maintenant, les items. Marc Marofimbo.
Ces élèves sont répartis dans 370 centres d'examen, tous opérationnels sur l'ensemble de la province. Dès les premières heures, les premiers candidats à terminer les épreuves du premier jour se montrent rassurés. Annie Guetala, finaliste de primaire au complexe scolaire Marie Coracon, témoigne.
J'imagine que j'ai bien travaillé, mais il y avait quelques questions qui étaient un peu difficiles. Je me suis efforcée de réussir ça. La préparation, un peu difficile, parce que la mathématique, je sais que je ne suis pas tellement forte, mais la science, là, je suis un peu surdouée.
Aucun incident n'a été signalé dans les différents centres d'examen. De son côté, la conseillère du gouverneur à charge de l'éducation évoque les dispositions pratiques pour la suite des épreuves. Prisca Kamala.
Nous sommes dans une province où il y a la guerre. Nous devons d'abord protéger nos enfants. Jusqu'à ce matin, on n'a pas reçu un message d'un centre qui n'arrive pas à fonctionner. Mais si cela arrivait, il y a toujours des dispositions que nous prenons par après. C'est l'exemple de ce qui s'est passé au Nord Kivu 3 la fois passée, on va récupérer les enfants qui ont manqué l'examen.
Pendant des jours, les élèves finalistes du primaire seront évalués en français, à culture générale, en mathématiques et en sciences. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Du côté de la province éducationnelle Kwilu 1 dans l'ex-Bandundu, ce sont au total 27 327 candidats répartis dans 153 centres qui prennent part à cette session. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée dans l'enceinte de l'école primaire Air Congo à Bandunduville. C'est en présence des autorités politico-administratives et éducatives de la province. On écoute tour à tour les explications de l'inspecteur principal adjoint en charge de l'éducation nationale, Hippolyte Mandossi, et le ministre provincial en charge du transport, Bonaventure Kip. Pala Mako qui s'exprimait au nom du gouverneur de province. Leurs propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Voici donc les statistiques donnant des précisions. 1. Nombre d'écoles ayant présenté les candidats à l'ENAPEP 2026, 931 écoles. Nombre de centres, 153 centres pour toute la province éducationnelle du Kwilu 1. Les inscrits, nous avons 13 500 87 garçons, soit 49,7%, et 13 738, soit 50,3% nombre de filles. Le total des inscrits pour toute la province éducationnelle Kwilu 1, c'est 27 327.
Demain, vous serez appelé élève de 7e. Mais pour y arriver, il faut une clé et vous allez ouvrir la porte de la 7e. Mais pour en avoir, je vous exhorte à la discipline et à la confiance à soi-même. La discipline est la clé de toute réussite.
Actualité internationale.
Parlons de ce drame au Niger. 49 personnes sont mortes de soif dans le désert dans le nord du pays après la panne de leur camion. Elles revenaient du Mali voisin où la plupart s'étaient rendues pour des fêtes religieuses. C'est le gouvernorat d'Agadez qui l'a annoncé hier jeudi sur les réseaux sociaux. L'alerte a été donnée par deux des passagers qui ont réussi à atteindre la localité d'Assamaka après avoir marché sur plusieurs kilomètres. Et puis le gouvernement américain a accentué hier sa pression sur Cuba. Il a placé sous sanctions économiques plusieurs personnalités cubaines dont le président Miguel Díaz-Canel et des membres de la famille Castro. D'après RFI.fr, Washington multiplie des mesures et des menaces pour tenter de faire tomber le régime cubain dont le président Trump a promis la chute.
L'invité.
Il s'agit de Souviens Kissimba, directeur provincial du GUSAP, le guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. Dans un entretien avec Paula Munanga, il explique le rôle et l'importance de ce service de l'État créé depuis 2022. Pour lui, GUSAP a pour mission de remettre de l'ordre dans l'octroi des permis de construire, un secteur qui était longtemps gangréné par le désordre. Suivant.
Monsieur Souviens Kissimba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi un guichet unique juste pour la délivrance des permis de construire?
Nous sommes un guichet unique de délivrance de permis de construire, GUPEC en sigle. Pourquoi nous sommes un guichet unique? C'est-à-dire toutes les opérations du début à la fin, du dépôt d'un dossier à l'octroi du permis de construire, ça se fait à l'interne du GUPEC. Donc le GUPEC ne dépend pas d'un autre service. C'est ainsi que même l'article 47 de l'arrêté portant mesure d'exécution du décret, donc l'arrêté 058, à son article 47, parle de ça.
Comment fonctionne le GUPEC? En d'autres termes, quelles sont les étapes à suivre par une personne pour l'obtention d'un permis de construire?
Nous voulons ici donc informer la population. Auparavant, GUPEC n'existait pas. Mais par des réformes voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est ainsi que GUPEC a été aussi institué, créé. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez construire, c'est venir avec votre dossier au GUPEC. Et cela, c'est l'article 13 de l'arrêté 058. Donc, le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et à l'article 20 du même arrêté, on parle de l'instruction du dossier. C'est-à-dire, l'instruction du dossier, le traitement du dossier, s'est fait au GUPEC. Pas ailleurs. Nous avons des techniciens qui vont faire la descente, qui vont faire leur PV, et nous allons faire la taxation. Et même la signature du permis, ça s'est fait au GUPEC. Et le contrôle, l'article 37, même arrêté, l'article 38, vous allez voir que dès qu'on vous donne, on vous octroie le permis, les copies doivent demeurer sur le chantier.
Pourquoi?
Parce que nos agents passeront pour le contrôle de ces permis.
Les permis de construire étaient octroyés depuis longtemps, avant même l'existence du GUPEC. Maintenant, quelle est l'importance de votre service?
Le GUPEC est venu donc combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi de permis. Vous allez voir, la plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis, parce que même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création de GUPEC, on a facilité les choses. Donc, venez à GUPEC, la République démocratique du Congo, les gouvernements a facilité les choses pour avoir ces permis.
Et maintenant, quel rapport entretenez-vous avec la division provinciale de l'urbanisme, vous en tant que GUPEC?
Le problème, selon les textes, il n'y a rien, mais il n'y a qu'un problème des personnes. La façon d'interpréter le texte, il n'y a que la rébellion, donc le refus d'accepter ce que dit le texte.
Qui refuse?
Il y a la division de l'urbanisme qui refuse la réforme. C'est ainsi que vous allez voir, si et là, des déclarations à mettre la population à mal.
Actuellement, il y a une certaine confusion qui s'observe sur le terrain dans la délivrance du permis de construire. Des agents de la division de l'urbanisme aussi, nous apprenons qu'ils sont en train de délivrer ces permis-là. Comment est-ce que vous répondez?
Les agents de l'urbanisme qui continuent à octroyer, à traiter les dossiers de permis de construire, se mettent dans le faux. Tous ceux qui sont en train d'octroyer là-bas, ce sont des faux documents. Aujourd'hui, il n'y a que GUPEC qui peut octroyer le permis de construire. Et nous allons faire nos enquêtes.
Il y a certains agents de la division provinciale de l'urbanisme qui accusent GUPEC d'empiéter sur les attributions de ces services de l'État. Quelle est votre réaction?
nous réceptionnons les dossiers des demandes de permis de construire sur GUPEC. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non, parce que l'article 13 de l'arrêté 058 parle que le dépôt du dossier s'est fait au GUPEC. Et puis, je vous ai parlé ici des traitements du dossier, de l'article 20. Nous traitons les dossiers ici. Est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Non. Je vous ai parlé aussi du contrôle. Je vous ai parlé de l'article 37 et l'article 38. On peut ajouter même d'autres articles. Quand nous contrôlons ce que nous avons signé, est-ce que c'est empiété sur les attributions de l'urbanisme? Nous, nous signons le permis ici. Qui viendra contrôler que ça c'est un vrai permis ou bien ça c'est un faux permis? C'est un autre service. Quand nos agents descendent sur terrain, ce n'est pas pour aller contrôler les attributions de l'urbanisme, non. C'est pour contrôler le permis de construire.
Monsieur le directeur Souvien Kisimba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Souvien Kisimba, directeur provincial du GUPEC, guichet unique de délivrance des permis de construire dans le Haut-Katanga. C'est la fin de ce journal. Yevin Bingala préparé avec Dieudonné Nyangasa la technique. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon début de week-end.